SBS Audio is supported by advertising.
Beneath the cracked clay, a seed unfurls. Leaf, bloom, life, promise. Crossing time and space. Experience Flora, a powerful story of resilience and renewal. Presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration traces the evolution of Australian flora. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre John Howard. Comme d'habitude, on échange avec l'historien Romain Fati et dans cet épisode, on va décortiquer la politique internationale mise en place par l'ancien Premier ministre conservateur. Très bonne écoute à tous. Alors, on va passer maintenant à sa politique internationale. Il y a deux sujets principaux que je voudrais aborder. Le premier, c'est les voisins immédiats de l'Australie, l'Indonésie et le Timor oriental, puisque lorsque John Howard est Premier ministre, en 99, il y a un référendum qui est organisé au Timor oriental. Accessoirement, petite anecdote, Timor en indonésien, ça veut dire Est, donc c'est un pays qui s'appelle l'Est oriental. Bref, en 99, les Timorais votent très massivement pour l'indépendance. Je rappelle que c'est une ancienne colonie portugaise et qui a donc eu un destin différent du reste de l'Indonésie qui était sous administration néerlandaise. Et ce souhait d'indépendance, il est complètement rejeté par l'Indonésie qui décide d'envoyer l'armée et réprime terriblement la population sur place. À la suite de quoi, John Howard, eh bien, envoie des troupes de maintien de la paix sur place qui vont permettre au Timor oriental d'accéder effectivement à leur indépendance. Alors cette action, dans un premier temps, elle est bien sûr saluée par la communauté internationale. On estime que le volontarisme de John Howard et les troupes australiennes ont permis d'éviter un génocide.
Ah oui.
Quelques années plus tard, on va se rendre compte que, toujours en cas d'intervention militaire d'un pays étranger, ça n'était pas uniquement animé par la bienveillance et le souhait de faire respecter le droit humanitaire. Et l'Australie va être salie par un scandale d'espionnage au Timor. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça?
Oui, alors là, c'est le moment où John Howard prend le pli de « il y a une question, quelle est ma réponse ? J'envoie des troupes ». C'est-à-dire que John Howard suit bêtement les Américains en Afghanistan. Et là, le Timor-Leste, c'est un petit peu après. Effectivement, l'Australie doit avoir une bonne relation avec l'Indonésie parce que c'est son voisin le plus important. En termes de population, un partenaire économique important. Pendant très longtemps, c'était le premier poste la plus grosse ambassade australienne était à Jakarta. Et effectivement, l'Indonésie ne souhaite pas l'indépendance totale du Timor oriental, qu'elle souhaite continuer à contrôler. Et du point de vue, disons, géostratégique. John Howard savait que il pouvait se présenter comme l'homme qui allait maintenir la paix et éviter les massacres, ce qui a été vrai. En envoyant des troupes, il a sauvé des vies. Mais au Timor-Leste, qu'est-ce que vous avez? Vous avez énormément de ressources en gaz et en pétrole, mais gigantesques, hein, vraiment, c'est très très important. Et donc, John Howard sait que si il y a ce nouveau partenaire économique dans la région, il aura pu à traiter avec seulement l'Indonésie. C'est-à-dire que vous divisez pour mieux régner, si vous voulez. Et donc, il soutient cette indépendance parce qu'elle est dans l'intérêt très clair, intérêt économique, des Australiens. John Howard n'est pas quelqu'un de très investi dans la région initialement. Pour lui, la politique étrangère qui est décidée à Londres ou à Washington, ça lui convient. Il n'a pas du tout cette impression, c'est une réalité, que l'Australie est dans l'Asie Pacifique, comme Hawke l'avait compris, comme Keating l'avait compris, et pour eux, l'avenir de l'Australie se situe dans cette région. Pour John Ward, c'est différent, mais c'est vrai qu'il s'investit au Timor-Oriental. Et l'affaire d'espionnage dont vous avez parlé, à l'époque, elle n'est pas discutée parce qu'elle n'est pas su, elle n'est pas révélée. Elle est révélée, je crois, à partir de 2012-2013. Mais à l'époque, elle est passée comme une lettre à la poste. Ce qu'il s'est passé, c'est que le service des écoutes australiennes et les services secrets déployés à l'étranger ont mis sur écoute le premier ministre du Timor-Leste, c'est-à-dire qu'ils ont mis des micros dans des bureaux pas très loin de celui du premier ministre, pour être au courant de ce qui se dit là dans son bureau, et donc savoir comment mener leur barque au cours des négociations économiques et politiques avec le Timor-Leste. Donc en fait, ils les ont écoutés pour savoir quelles étaient leurs lignes rouges, comment s'en sortir et comment négocier un traité à leur avantage. Et évidemment, quand l'affaire a éclaté en 2012-2013, le Timor-Leste a dit, bah, attendez, l'accord, il est faux, puisque en fait, vous nous avez lésés, vous nous avez menti, vous nous avez écoutés, vous nous avez espionnés. Et ça a causé tout un tas de sérieux problèmes diplomatiques. Et encore aujourd'hui, le Timor-Leste et l'Australie sont en désaccord sur l'exploitation des ressources gazéifières et pétrolières de cette région.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'est bien sûr la relation de l'Australie sous John Howard avec les États-Unis, en particulier sans doute avec George W. Bush, puisque John Howard, eh bien, va suivre sans discuter les États-Unis dans leur guerre menée en Irak et en Afghanistan.
Oui, alors de ce point de vue-là, John Howard, c'est l'Australie vassale, hein, très clairement. C'est-à-dire que il y a eu d'autres hommes de droite en Australie qui soutenaient les États-Unis, mais jamais aussi de façon aussi fervente et de façon aussi aveugle, je dirais. L'Afghanistan, ça peut se comprendre. C'est un moment de choc. Enfin, ceux d'entre nous qui l'ont vécu, voir le World Trade Center s'effondrer et les États-Unis attaquer, c'est un changement de paradigme absolument radical. Mais en Irak, nous, on a eu Dominique de Villepin, de droite également, mais complètement opposé à la guerre en Irak, qu'il savait qu'elle allait déstabiliser cette région du monde, comme Chirac le savait, comme de nombreux Français le savaient, que ça créerait un espace sans frontières, sans droits, qui donnerait raison aux terroristes. Et donc, le terrorisme qu'on a dû affronter dans les années 2013, 14, 15, 16 en France et en Europe est directement lié à ça. Ce n'est absolument pas une défense du dictateur Saddam Hussein, hein, ce que je dis, un hideux personnage, évidemment. Mais enfin, il faut toujours calculer ce qu'on a à gagner et ce qu'on a à perdre quand on prend ce genre de décision. Et pour John Howard, le calcul était simple. C'est « je suis les États-Unis ». C'est quelqu'un qui a défendu Colin Powell, qui a menti aux Australiens. Vous savez, Colin Powell, avec ses slides aux Nations Unies, en disant « voilà, il y a des armements de destruction massif », Tony Blair, le premier ministre britannique, qui passait derrière en disant « oui, oui, tout à fait, on va y aller », n'était pas du tout prouvé, c'était faux, on le sait à présent. Mais John Howard ne s'est pas tellement posé la question. Lui, ce qui l'importait, c'était encore une fois de déployer des troupes. On parle de pas grand-chose, hein. On parle de 2000 soldats australiens initialement. Mais c'est une contribution qui permettait aux États-Unis de dire, voyez, on a une coalition internationale. On n'agit pas de notre propre chef, ce qui leur donnait une certaine légitimité. Et donc, en parallèle, ce qui se passe, c'est que vous avez des centaines de milliers d'Australiens qui manifestent dans les rues, ce qui est excessivement rare en Australie. Les Australiens, même de son parti, sont opposés à cette aventure militaire, et pourtant il y va. Et pourquoi il y va? Parce que pour John Howard, le fondement de la politique diplomatique australienne, C'est locus, pardon. Vous voyez, ma langue fourche. C'est le traité ANZUS, établi au début des années 50 entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis parce que John Howard sait que un certain nombre de bases d'écoute et de défense australiennes, pardon, américaines, sont situées en Australie. Pour lui, il voit la défense de son pays comme liée au parapluie militaire et nucléaire que pourraient lui proposer les États-Unis. De ce point de vue-là, c'est un pragmatiste. Il sait que l'Australie est trop petite, n'a pas assez de moyens et n'en a probablement pas l'envie. Ce qui importe à l'Australie n'est pas la souveraineté, mais la sécurité, et que bon, bah, il vaut mieux se placer sous le parapluie américain et anticiper leurs demandes. Et George Bush trouve un allié. D'ailleurs, il vient lui rendre visite à Canberra. Hein, et George Bush et John Howard s'entendent très très bien. De ce point de vue-là, ils sont main dans la main.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la dernière partie de notre épisode consacré à John Howard. Dans celui-ci, on s'intéressera à sa vie après la politique et on verra qu'il reste extrêmement influent sur la sphère qu'il a occupée pendant des décennies. À très bientôt!
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Our medicine returns for a powerful new season.
Our role is being there on someone's worst day. It can also be a really tough place to work.
Step onto the front line with First Nations medical practitioners.
You had a fall, did you?
With unprecedented access.
You can't control what's going to happen next.
The series reveals how modern medicine and cultural knowledge work together to deliver better care.
That's a pretty beautiful thing to be part of.
Our medicine. Stream now on SBS On Demand.